Espace 2.
Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Impossible d'ignorer le lancement de ce film. Nécessaire de connaître le monde de C.S. Lewis. C'est la proposition d'A Vue d'Esprit toute cette semaine.
À Vue d'Esprit.
Monsieur, bonjour. Michel Cocher au micro, Marie-Claude Cudry à la réalisation. C.S. Lewis est l'écrivain qui a inspiré le film, coproduit par les studios Disney, dont personne n'ignore maintenant la sortie, Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique. Et bien cette semaine, à l'enseigne d'A Vue d'Esprit, nous apprenons à connaître d'un peu plus près cet auteur anglais, grâce à vous Serge Carrel.
Bonjour.
Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous proposez de découvrir comment C.S. Lewis est devenu croyant, car il ne l'a pas toujours été.
Oui, c'est une dimension tout à fait intéressante de l'existence de C.S. Lewis. Cette dimension fascine beaucoup de gens, chrétiens ou pas. Jusqu'à l'âge de 30 ans, C.S. Lewis s'est dit athée. En 1929, il commence à croire en une puissance transcendante. Puis à l'âge de 33 ans, en 1931, lors d'une fameuse nuit de discussion avec Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, il devient chrétien.
On aurait aimé être là, dans cette nuit de discussion. C'est donc ce parcours de l'athéisme à la foi que vous nous proposez de découvrir.
Oui, grâce à Irène Fernandez, elle est philosophe. Elle vient de publier un livre intitulé C.S. Lewis, mythe, raison ardente, aux éditions Adsolem à Genève. C.S. Lewis, en fait, a un peu raconté ce parcours. Il a publié un ouvrage autobiographique qui s'intitule « Surpris par la joie » et on perçoit au travers de ce livre un ou deux indices qui nous permettent un peu de mieux connaître son cheminement. J'ai donc d'abord demandé à Irène Fernandez ce qu'il fallait comprendre lorsque C.S. Lewis recourait au mot « joie » pour quelque part qualifier son parcours.
Comme il le dit lui-même, c'est presque un terme technique chez lui. La joie, c'est une expérience de désir. Au fond, c'est une expérience aussi de réaction à la beauté, qui peut partir d'un arbre en fleurs, qui peut partir d'une musique que l'on entend, d'un poème que l'on admire. Enfin, donc, il y a toutes sortes de possibilités.
Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu une expérience esthétique ?
Ça se confond souvent avec l'expérience esthétique, mais pour Lewis, d'ailleurs, l'expérience esthétique avait une composante de désir. C'est-à-dire que ça éveille le désir, mettons, de la beauté, et on se rend compte que l'expérience ne pourra pas vous donner cela. Donc la joie est un désir qui est extrêmement, comment dirais-je, qui est toujours frustré, et en même temps, c'est l'expérience la plus satisfaisante qui existe. Donc il y a un grand paradoxe là-dedans, si vous voulez. On peut l'éprouver tout d'un coup, on ne peut pas l'éprouver sur commande d'ailleurs, il ne suffit pas même de se promener dans un beau musée ou une belle forêt pour l'avoir, mais il y a certains moments où tout d'un coup, si vous voulez, il y a quelque chose qui vous perce le cœur, ce qui est un aspect de la beauté d'ailleurs, et vous vous rendez compte que ce que vous désirez n'est pas à votre portée, et qu'en même temps, il n'y a rien de plus désirable que de le désirer. Et c'est ça qu'il a essayé d'exprimer par joie. Alors on peut discuter le terme, mais enfin, c'est ça qu'il entend par joie.
Et de manière assez intéressante, c'est une expérience qui l'accompagne tout au long de son existence. On pourrait même dire jusque dans son mariage, puisque sa femme s'appelle Joy, joie. C'est assez drôle d'ailleurs.
Oui, ses amis ont fait des plaisanteries là-dessus, bien sûr. Mais Lewis, ça l'a accompagné. Alors au début, il explique que ça avait une importance absolument capitale pour lui, puis qu'après, il s'est rendu compte que c'était une expérience certainement essentielle, mais qui n'est peut-être qu'une expérience parmi d'autres. Mais ce qu'il a toujours gardé, c'est ce que la joie lui a révélé, c'est-à-dire le désir de l'au-delà de tout ce qui est donné. En termes chrétiens, ça s'appelle la vertu d'espérance, où on espère beaucoup plus, enfin on espère Dieu même, si vous voulez. Et ça, il l'a évidemment toujours gardé.
Et là, lorsqu'il était athée, c'est une expérience qu'il vivait et qu'il habitait, et qui a été quelque part motrice pour lui permettre d'avancer vers un théisme et puis vers ensuite des convictions plutôt chrétiennes.
Je ne sais pas exactement, c'est pas toujours facile de reconstituer les véritables itinéraires des gens, même si on a beaucoup de... Bon, il avait été élevé dans un christianisme, un protestantisme conventionnel, vous voulez, mais qui n'était pas très nourrissant pour personne apparemment, et il avait très jeune perdu la foi, Sa mère est morte quand il avait 10 ans. Il a été ballotté d'internat en internat assez déplaisant. Il a connu les tranchées de la guerre de 14 très jeune. Enfin, tout ça, il avait conclu que le monde était vraiment une sale affaire et qu'il ne pouvait pas avoir un dieu comme créateur. Vous voyez. Et il a été vraiment athée pendant longtemps. Non, mais ce qu'il a... Je ne sais pas si c'est la joie. La joie a continué à apparaître ou disparaître selon les cas. Mais je vous dis, il y avait aussi une évolution intellectuelle où il s'est interrogé sur est-ce que c'est possible. Il a été très influencé par l'idéalisme anglais qui régnait à l'époque, une sorte de philosophie de l'absolu. C'est un absolu impersonnel, vous voyez, dont on fait plus ou moins partie, etc. Puis ça lui a paru absurde qu'on fasse partie de l'absolu, vous voyez. Enfin, mais je résume de façon très très grossière, parce que ça a pris des années, si vous voulez, et il a fini par aboutir à l'idée que Dieu existe. Mais je vous dis, avant d'être chrétien, hein, c'est qui est assez rare, hein, parce que en général, quand, à notre époque où on est athée, ou bien si on se convertit, on passe pas par une période de théisme pur. C'est une position philosophique, mais quand même rarissime.
Et qu'est-ce qui l'a conduit concrètement à ce théisme, à cette croyance en un Dieu ?
Bah, écoutez, moi, tout ce que je sais, lui, c'est ce que j'ai lu des lettres qu'il écrit, etc. C'est quand il est arrivé à Oxford comme étudiant, juste après la guerre de 14. Et bien sûr, il est tombé dans un milieu très bouillonnant intellectuellement, où beaucoup de gens se posaient des questions, où la question de qu'est-ce que l'absolu, qu'est-ce que la connaissance, comment est-ce qu'on peut arriver à une connaissance vraie, etc., ça les agitait beaucoup. Et je pense que c'est ça qui a mis son esprit en chemin. Et puis l'athéisme qu'il avait était un athéisme assez court, un petit peu positiviste, si vous voulez. Donc c'était pas non plus très satisfaisant pour un homme comme Louis, c'était pas fondé. Alors à force de réfléchir là-dessus, ça l'a mis en marche. Enfin, alors évidemment, d'un autre point de vue, on dira que c'est la grâce de Dieu qui, qui agissait. Mais tel ou tel, il le raconte un peu dans l'autobiographie dont vous avez parlé, quoique avec une certaine distance, etc., mais il montre bien aussi comment des problèmes moraux aussi sont mis en place, qu'est-ce qui fait qu'on doit faire le bien, enfin, tout ça, ça finit par se combiner, mais comment se fait-il que ça les fait évoluer intellectuellement comme ça, ça serait difficile à dire, si vous voulez.
Irène Fernandez, à la fin des années 20, au début des années 30 du XXe siècle, C.S. Lewis donc devient théiste. Qu'est-ce qui va faire que, par la suite, il entre pleinement en christianisme ?
Bon, il était évidemment en pleine évolution, disons, religieuse. Et dans un pays comme l'Angleterre, tout au moins en ce temps-là, on peut difficilement faire abstraction du christianisme, dans lequel d'ailleurs il avait été élevé. Et au fond, je pense que c'est une évolution continue, je vous dis, qui s'est liée à sa réflexion sur les mythes. Et sur. Alors, on a parlé de l'influence de Tolkien, il a au moins été extrêmement important dans une histoire qu'on raconte très souvent, dans une très longue conversation qu'ils ont eue une nuit, puisqu'on parlait beaucoup, il parlait beaucoup la nuit dans ses collèges. Et on se réunissait, on buvait un porto ou une bière, et on continuait à parler. Et lui, et un autre de ses collègues qui était également chrétien, qui s'appelait Dyson, il faudrait quand même lui rendre aussi hommage, parce qu'on parle évidemment toujours de Tolkien, mais ces deux-là ont parlé avec Lewis pendant des heures et des heures, jusqu'aux petites heures du matin, et ils ont parlé des mythes. Et Lewis a encore dit à cette époque, Tolkien le raconte dans son poème Messapia qui a été publié depuis. Lewis a dit, ça c'est les mythes, c'est merveilleux, mais c'est pas vrai. Et alors Tolkien et l'autre lui ont dit, si, quelquefois c'est vrai, une fois au moins c'est vrai. Et d'ailleurs, même dans les cas où il s'agit de mythes, j'allais dire au sens ordinaire du terme, ils expriment quelque chose de la réalité, donc ils peuvent avoir de la vérité. Alors, vous voyez, on est passé d'une vérité possible des mythes à l'idée que le mythe, du Dieu mourant et ressuscitant s'est réalisé une fois dans la réalité. Et ça, c'est ce qui a déterminé Lewis qui... Alors maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on adhère à la foi? Vous voyez, ça reste le mystère de chacun.
Et là, donc, à partir du début des années 30, effectivement, C.S. Lewis devient chrétien et l'affiche assez rapidement.
Ah oui, il l'affiche pas. Si on dit l'affiche, ça a l'air péjoratif. Mais en fait, il se met à défendre le christianisme, à l'expliquer, à écrire des livres là-dessus, etc. Alors évidemment, tout le monde comprend. Et puis, ça a même un peu choqué. Vous savez, les gens à Oxford, je ne sais pas comment ils sont maintenant, mais à l'époque, c'était très bien d'être chrétien. On tenait même officiellement anglican dans la plupart des cas. Mais il ne fallait pas trop le montrer. Et puis, il ne fallait pas trop que ça soit sérieux, quoi. C'est un agréable symbolisme pour agrémenter la vie. Ça a donné une liturgie magnifique, d'ailleurs. Mais c'est tout. Et alors, voilà, tout d'un coup, il y avait d'une part Tolkien qui était catholique, ce qui n'était pas bien. Et puis, voilà, Lewis qui, lui, était anglican, mais qui se mettait à prendre ça au sérieux. Et c'est ça qui a fait tout de suite qu'il a été... Mais il était lui-même pugnace, je vous dis donc, qui s'est mis dans une position... Je ne peux pas dire de combat, mais quand même un peu.
Irène Fernandez, ce qui est surprenant lorsqu'on lit C.S. Lewis, cet écrivain à l'arrière-plan chrétien assez marqué, c'est qu'il y a quelques thématiques qui reviennent de manière assez systématique, et notamment celle du sacrifice. Pourquoi cela ?
Oh, je ne sais pas, je trouve que c'est peut-être un peu durcir les choses. Le thème du sacrifice n'est pas spécifique à Lewis. Bon, il se retrouve bien sûr dans le christianisme, puisque c'est la croix. Mais je ne crois pas qu'il ait particulièrement insisté là-dessus. Bien sûr, il y a dans les chroniques de Narnia, il y a le sacrifice d'Aslan, dans la première des chroniques. Et puis, il y a le fait qu'on peut être amené à sacrifier certaines choses parce qu'il le faut à certains moments. Mais ce n'est pas une thématique particulière de Lewis, je ne crois pas, enfin.
Irène Fernandez, on dit de C.S. Lewis qu'il était un apologète de la foi chrétienne, un défenseur de cette foi. Comment est-ce qu'il s'y est pris dans son contexte universitaire pour plaider la cause de la foi chrétienne ?
Je pense d'abord qu'il est devenu apologète, c'est certainement un des grands apologètes de notre temps, non pas tellement pour défendre le christianisme que pour éclairer sa nature. Et c'est parce qu'il a bien compris qu'il est vrai que le christianisme à notre époque est un petit peu, enfin, en Europe en tout cas, toutes choses égales d'ailleurs, comme il, dans la situation où il se trouvait dans les premiers siècles. C'est-à-dire qu'il est surtout l'objet d'une ignorance énorme, y compris, je dois dire, de la part de beaucoup de chrétiens, et de préjugés considérables de la part de ceux qui ne le sont pas. Donc en le devenant, je veux dire chrétien, Lewis a tout de suite senti qu'il fallait dire de quoi il s'agissait. Le mot apologie est un mot dangereux parce qu'on a l'air de dire qu'on s'excuse, qu'on se défend, vous voyez, Non, on explique de quoi il s'agit pour que les gens puissent au moins juger sur pièce. Personne ne peut vous obliger à être chrétien, pas plus que dire pas chrétien, mais vous devez avoir les éléments du procès.
Alors concrètement, comment est-ce que C.S. Lewis s'y prend pour plaider la cause de la foi chrétienne ?
En fait, il a fait tout un travail d'abord d'explicitation, adressé à ce qu'on pourrait appeler le grand public. Il disait lui-même que je n'étais pas capable d'expliquer en termes simples et accessibles à tous ce que l'on croit, c'est qu'on n'y croyait pas vraiment. Vous voyez, c'est-à-dire si on est obligé de rester dans le langage de la théologie, qu'il était parfaitement capable, bien sûr, de manier. Donc, premièrement, il a exprimé très clairement et très nettement en quoi consistait la foi chrétienne. Ensuite, il l'a exprimé à travers ses contes, parce qu'il l'exprimait spontanément. Mais vous savez que ce qui l'a rendu célèbre, c'est ce qu'on a traduit en français sous le nom de Tactique du diable. C'est-à-dire des lettres écrites par un vieux diable. Bien sûr, le contexte est mythique, mais le livre n'est pas un mythe. Le livre est un livre de psychologie excellent. Alors le vieux diable écrit à un jeune pour lui expliquer comment il doit tenter un jeune homme. C'est donc la vie de ce jeune homme, vide, vue à l'envers, si vous voulez.
Et ça, c'est un ouvrage qui a été publié pendant la Seconde Guerre mondiale, oui, de manière assez surprenante, dans un quotidien, je crois.
Oui, c'est ça. C'était, enfin, c'était un petit journal, je crois, plus ou moins pieux. Et d'ailleurs, il y a un pasteur qui s'est désabonné en disant « Je ne veux plus lire, les avis qu'on donne là-dedans sont positivement diaboliques. » Mais en fait, ça l'a rendu célèbre du jour au lendemain. D'ailleurs, pour beaucoup, il était l'auteur des Screwtape Letters, comme on dit. Screwtape, c'est le nom du diable en question. Mais ce qui l'agaçait un peu, parce qu'il n'a pas écrit que ça, ce qui a amené des responsables de la BBC pendant la guerre à lui demander de faire des causeries. Pendant la guerre, pendant les bombardements de Londres, etc., ça a été un des hommes les plus écoutés en Angleterre. Il avait des causeries d'un quart d'heure qui ont été reprises ensuite dans un livre qui s'appelle « Mere Christianity », l'essentiel du christianisme ou quelque chose comme ça, qui est un livre qui est encore un classique, où il explique justement en quoi ça consiste. Ça va depuis les problèmes moraux essentiels jusqu'à la doctrine de la Trinité, vous voyez. Et c'est un très beau livre et ça a un succès absolument énorme. Et du jour au lendemain, il a été connu partout, etc. Donc, simplement en disant de quoi il s'agit, mais avec talent et avec cette capacité qu'il avait, lui qui était quand même un intellectuel de haut rang, si vous voulez, de parler à tous, mais sans non plus, vous voyez, faire ce qu'on appelle la vulgarisation, comme si on rendait les choses vulgaires, d'ailleurs, sans être condescendant, etc., avec... Là, il a réussi de façon remarquable. D'autre part, bon, Narnia ou la trilogie ou un certain nombre de choses comme ça, même son dernier livre, Un visage pour l'éternité, exprime aussi la réalité de la foi. Bien sûr, ça ne s'exprime pas aussi directement dans ses œuvres, disons, universitaires et professionnelles, mais vous avez toujours des éclairages qui vous permettent tout d'un coup de comprendre de quoi il s'agit. C'était un homme dont l'imagination est extrêmement importante aussi comme moyen de faire comprendre, vous voyez. Et ça, c'est comme ça qu'il a fait, il n'y a pas de truc, vous savez.
Et ce qui est intéressant aussi dans cette personnalité, c'est qu'en tant que penseur chrétien, c'est quelqu'un qui a eu un écho assez large dans toutes sortes de milieux. Il n'était pas confessionnellement trop connoté.
Il a toujours été un anglican avec toutes les problèmes de l'anglicanisme, qui d'ailleurs il escamotait un peu. Lewis avait une limite au point de vue théologique, il n'avait aucun sens de l'Église. Moi j'ai toujours dit que c'était la Providence qui avait fait ça, parce que ça lui a permis de traiter des quantités de sujets où les Églises peuvent se reconnaître, peuvent reconnaître un bien commun, vous voyez, ce qui est très important. Et je pense que les chrétiens qui prennent la foi au sérieux, c'est-à-dire qu'ils croient vraiment, quoi, qu'ils soient orthodoxes, protestants, catholiques, se reconnaissent en Lewis. D'ailleurs, c'est eux qui forment effectivement ses lecteurs. Il y a aussi des gens qui détestent Lewis, mais en général, ils détestent Lewis. Et ça, c'est très honorable pour lui, parce qu'il déteste le christianisme.
Irène Fernandez, on vient de dire que le christianisme de C.S. Lewis était un christianisme universel, entre guillemets, passe-partout. Mais est-ce que, quand même, dans sa perception, par exemple, du visage de Dieu, du visage du Dieu chrétien, ou dans sa perception de la foi chrétienne en général, il y a certains axes qui sont particulièrement signifiants?
Je dirais d'ailleurs qu'aujourd'hui, passe-partout, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, en ce qui concerne la foi, bien sûr, parce que ce qu'on appelle foi traditionnelle, c'est ce qu'on appelait autrefois foi tout court, c'est-à-dire la foi que l'ensemble des données chrétiennes correspondent à des réalités qui ne dépendent pas de notre pure subjectivité, si vous voulez. Alors, c'est déjà extrêmement important. Lewis a un sens extraordinairement fort. Si je dis de la transcendance de Dieu, ça fait très abstrait, mais d'un Dieu qui est vraiment une personne, qui est peut-être la seule vraie personne d'ailleurs, devant qui nous sommes, avec qui nous sommes en rapport, et qui n'est pas simplement plus ou moins une projection de notre moi, une symbolisation de nos problèmes moraux, toutes choses qui n'ont rien de méprisable d'ailleurs, mais qui ne sont pas pour Lewis l'essentiel de la chose, si vous voulez. D'autre part, il est certain qu'il a un sens du Christ très très fort. Et il ne l'a jamais aussi bien exprimé que dans Aslan, d'ailleurs.
Donc Aslan, le lion, qui connaît le sacrifice, la mort, et puis en même temps la résurrection.
Oui, ça ce qu'il a exprimé dans la première des chroniques. Mais il ne faut pas d'ailleurs faire trop de parallèles. Si on essaye de faire des parallèles terme à terme, on n'arrive jamais à retrouver l'ensemble des doctrines. Parce que c'est-à-dire pas ce que cherchait Louis. Mais Aslan est plus que cela. C'est un personnage vraiment inventé, mythique, qui présente, vous voyez, on ne peut pas dire qu'il représente le Christ, mais il le présente. Et il l'a présenté en fait comme ça à beaucoup de gens, parce qu'à travers lui, c'est le Christ qu'on retrouve.
Irène Fernandez, est-ce qu'il y aurait un autre axe de ces convictions chrétiennes qui vous a particulièrement surprise ou peut-être même particulièrement nourrie au fil des années ?
Je ne sais pas si je peux identifier une doctrine en particulier, je ne pense pas. Je pense que le plus important, c'est le sens de la réalité de tout ça, vous voyez. Sens qui, chez beaucoup de gens, chez beaucoup de contemporains, a disparu, si vous voulez. Et c'est beaucoup plus important. Au fond, pour lui, c'est quelqu'un, on voit bien que c'est quelqu'un qui vit avec Dieu, qui nous fait comprendre que ça peut être qu'une telle vie. Ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Alors après, selon les cas, on insiste sur tel aspect ou tel aspect, ça dépend aussi de la vie qu'on a, des problèmes qui se posent, etc. Mais je pense que c'est un très très grand témoin de la réalité de Dieu.
Irène Fernandez, il y a un mot qui revient souvent dans le livre que vous avez publié, c'est le terme mutopoétique, faiseur de mythes. En quoi ce terme est-il important pour caractériser Lewis et Tolkien aussi ?
C'est un mot que Tolkien aimait beaucoup, et Lewis également, et tout le milieu de leurs amis qui s'intéressaient à ce problème. Un récit mytho-poétique, c'est un récit qui est capable, comme son nom l'indique, de créer du mythe, c'est-à-dire finalement d'ouvrir une vision du monde qui fait sauter nos habitudes, nos préjugés, qui peut éventuellement nous dépayser, mais au bon sens du terme. Parce que pour Lewis, pour Tolkien aussi, ça nous fait découvrir notre vrai pays, si vous voulez. C'est donc un terme très important. Et il y a un poème de Tolkien qui s'appelle Mythopoeia, c'est-à-dire qui reprend exactement le même terme, qu'il avait écrit pour Lewis après leur fameuse conversation de septembre 31, où Tolkien développe, en vers d'ailleurs, sa conception du mythe, justement, et du mytho-poétique, de la création mythique. Alors on ne peut pas se mettre à sa table un jour en disant « je vais écrire un mythe ». Parce que ça, on peut se dire, je vais écrire un livre de science-fiction, je vais écrire un conte, je vais écrire... Mais qu'il soit mytho-poétique ou non, ça dépend vraiment d'autre chose que de la volonté.
Et concrètement, ça va dépendre de quoi ? Qu'effectivement, un récit atteigne ce statut d'élément mytho-poétique ?
D'abord, on le voit dans la réception du récit, si vous voulez. Et d'autre part, il y a une espèce d'alchimie de la lecture qui transforme les choses au-delà de l'intention de l'écrivain. Parce que, je vous dis, ce serait prétentieux, il me semble, de la part d'un écrivain, fût-il fort grand, de se dire « je vais écrire un mythe ». Comment se fait-il, d'ailleurs, par exemple, il y a des écrivains, et ça c'est une idée de Lewis que j'ai vue reprise par d'autres, il y a des écrivains qui ne sont pas parmi les plus grands écrivains, pas parmi les plus grands maîtres de la langue, et qui sont des créateurs de mythes. Et pensez à Conan Doyle, qui a créé Sherlock Holmes, et qui restait un mythe extraordinaire, alors que Conan Doyle, lui, qui était écrivain, il a écrit quantité de romans, il était furieux parce que pour lui, c'était ses romans qui étaient importants, vous voyez. Et il y a comme ça des personnages qui deviennent mythiques. Il y a Robinson Crusoe, et des choses comme ça. Alors, parce que ça touche, évidemment, pourquoi ? On peut se dire qu'on peut faire des tentatives d'explication, et ce n'est pas absolument irrationnel, si vous voulez. Et de même, des mythes comme ceux de Narnia, parce que pour moi, Narnia est un mythe, peut-être pas tel et tel détail, vous voyez, mais l'ensemble de ce pays, de cette contrée, c'est que ça touche certainement des désirs, comme dirait Lewis, puisque le désir est essentiel, enfin le désir du paradis, qui est un des grands désirs de l'humanité, que beaucoup de contes et de mythes touchent, si vous voulez. Mais il ne suffit pas de se dire « je vais décrire un pays épatant pour y réussir ». Pourquoi est-ce qu'on y réussit ? Pourquoi est-ce qu'un grand poète est un poète ? Vous voyez, ça, c'est difficile de répondre de façon tout à fait simple.
C.S. Lewis, de l'athéisme à un christianisme militant, c'est le titre de cette interview, Serge Carrel, que vous avez réalisée avec Irène Fernandez, cette philosophe parisienne qui vient de publier un ouvrage sur Lewis.
Oui, Irène Fernandez fait partie de cette petite cohorte d'auteurs qui ont publié leur livre à l'occasion de la sortie du film Disney. Alors le livre d'Irène Fernandez, c'est un pavé de près de 500 pages. Il s'intitule C.S. Lewis, mythe, raison ardente et il est paru aux éditions Adsolem à Genève.
Ça se lit quand même si c'est 500 pages de philosophie.
En tout cas, personnellement, j'ai trouvé très intéressant de voir d'une part la connaissance de cette femme par rapport à C.S. Lewis, puis aussi de réaliser un peu toute la problématique d'un C.S. Lewis qui s'intéresse aux mythes, qui s'intéresse aux contes de fées et qui quelque part le réinvestit ses genres littéraires de toute une série de catégories théologiques et de discours de foi, ce qui est assez surprenant à certains égards.
Alors, il y a ce livre, il y en a d'autres aussi, peut-être plus simples, que vous nous proposez, Serge Carrel, sur notre page web.
Oui, on les trouvera sur notre site espace2.ch/esprit. Et j'espère que ces ouvrages vous permettront alors soit de lire C.S. Lewis dans le texte ou d'avoir une perception peut-être plus développée de ce que fut sa pensée et sa manière aussi d'envisager la foi chrétienne.
Alors demain, dernière émission de cette série d'A Vue d'Esprit, où est-ce que vous nous emmenez ? On fait un grand voyage.
On fait un grand voyage, on ira près de Chicago, aux États-Unis, pour la visite d'un musée consacré à C.S. Lewis.
Un musée. Et oui. Alors à demain, on se réjouit, Serge Carrel, merci.
On restera en fait en compagnie de fans, mais cette fois de fans qui ont eu certains moyens pour réaliser un véritable musée.
Alors rendez-vous est pris pour demain, 16h30, prochaine édition d'A Vue d'Esprit. Merci d'être resté à notre compagnie. Si vous souhaitez réagir à cette émission, n'hésitez pas à nous téléphoner au 021 318 60 70. Dans tous les cas, on se retrouve demain à 16h30 sur Espace 2. Marie-Claude Cudry signe la réalisation de cette édition. Michel Cocher avait le plaisir de vous la présenter. Suite du programme d'Espace 2, d'un air entendu.
Une veillée de Noël au rythme du gospel. Le 24 décembre, vivez une soirée extraordinaire en direct de l'espace culturel des Terreaux à Lausanne. No. Au programme, le spectacle Le Gospel de Mahalia, suivi par des reportages réalisés dans les communautés noires de Chicago. À 23h, le culte de longue veille, animé par le pasteur Serge Molla, puis la messe de minuit en direct de la basilique Notre-Dame de Lausanne. La veillée de Noël, samedi 24 décembre, dès 20h, sur Espace 2.
Espace 2. Il va être 17h. Vous retrouvez Daniel Robella après les informations.